l'ingérence des puissances étrangères qui nous amène à parler de la situation en Nouvelle-Calédonie, parce que là aussi, on s'interroge sur le rôle des réseaux sociaux et plus précisément le rôle de TikTok. C'est une des mesures fortes qui a été annoncée ce soir par le gouvernement, l'interdiction de TikTok, mesure inédite. L'archipel, vous le savez, qui vit des heures sombres, plongées dans le chaos. La population, il est 7h38, là en ce moment, en Nouvelle-Calédonie, et la population se réveille sous état d'urgence. L'armée va être déployée dans les ports, à l'aéroport, décision qui témoigne de la gravité de la situation décrite comme insurrectionnelle. 4 morts, dont un gendarme de 22 ans tué par balle, selon le dernier bilan. On sera dans un instant sur place avec Sonia Baquès, présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie, avec Jean-Frédéric Blanchard, chirurgien à Nouméa, né avant les dernières images avec Caroline Meyer et Simon Terrassier.
Sous un ciel obscurci par les nombreux panaches de fumée, Nouméa vit en apnée.
Alors là, vous pouvez voir qu'on est asphyxié par la fumée. Ils ont foutu le feu partout.
Voilà, Leader Price là-bas.
Une flambée de violence qui a réduit en cendres plus d'une centaine d'entreprises.
Les émeutiers qui sont parfois très très jeunes, on a des gamins de 12, 14, 16 ans qui sont sur les barrages ou qui mettent le feu aux bâtiments de la province.
Déjà près de 150 millions d'euros de dégâts et 1500 emplois supprimés selon la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. Depuis lundi, l'archipel est le théâtre d'incendies, de pillages et d'affrontements.
Ils nous ont arrêté la voiture, ils nous ont encerclés. Y en a qui sont montés sur notre voiture, on nous a insultés, on nous a envoyé des pierres sur la voiture, aspergés d'essence et d'eau. On a réussi à ressortir, mais on a eu vraiment peur.
Les heurts se font violents entre émeutiers et forces de l'ordre, parfois dépassés, car toujours dans l'attente des renforts de la métropole.
4 escadrons de gendarmerie mobile qui vont arriver avec un renforcement d'une quinzaine de gendarmes du GIGN.
500 effectifs supplémentaires, en plus des 1800 policiers et gendarmes déjà présents sur le terrain.
On est dans une situation insurrectionnelle totale. C'est limite la guerre civile. Il y a des barricades dans tout Nouméa et dans tout le Grand Nouméa entre Calédoniens qui sont surarmés. Hein. La Calédonie, c'est 250 000 habitants et c'est 100 000 armes en circulation.
Pour se protéger dans leur résidence, les habitants tentent d'organiser une forme de résistance.
Je vous laisse imaginer très facilement ce qui va se passer si d'un côté, il y a des milices armées qui, en se protégeant, vont vouloir tirer à balles sur ceux qui les agresseraient et qui seraient également armés.
Plus d'une centaine de blessés sont déjà à déplorer. 3 émeutiers ont même perdu la vie. Ce mercredi, un gendarme a succombé à ses blessures après des tirs sur son véhicule. Située à 17 000 km de Paris, la Nouvelle-Calédonie n'avait pas connu de telles violences depuis les années 80. Une paix retrouvée en 1998 avec les accords de Nouméa. Ils instauraient un gel du corps électoral pour rééquilibrer les rapports de force entre Caldoches, les habitants d'origine européenne, et les autochtones Kanak. Un accord qui se voit aujourd'hui remis en cause par une loi votée au Parlement ce mardi.
Aujourd'hui, les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, de parents non nés en Nouvelle-Calédonie, ne peuvent pas voter et les personnes qui sont présentes depuis plus de 10 ans ne peuvent pas voter. Donc le texte prévoyait que les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, quels que soient leurs parents d'une part, et d'autre part, les personnes présentes en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 ans puissent voter. Ce texte-là, c'est simplement un retour à un minimum de démocratie.
Mais les indépendantistes ne l'entendent pas de la sorte. Drapeau à la main, ils prennent possession des routes et ronds-points. Ils voient en cette loi un passage en force de l'État pour, je cite, « minorer encore plus le peuple kanak ».
On se sent opprimé, on a de la colère en nous. Tout se passe là-bas et nous, on se demande est-ce qu'on nous entend, nous, peuple Kanak.
Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec cette loi-là, avec ce texte-là qu'ils ont pondu, là. On n'est pas d'accord du tout.
Pour tenter de ramener la paix sur l'île, le gouvernement a ordonné l'état d'urgence, un régime d'exception, décrété seulement 8 fois depuis sa création, il y a presque 70 ans.
Voilà, l'état d'urgence qui a donc été décrété, et puis une série de nouvelles mesures annoncées ce soir par Gabriel Attal. Écoutez.
Le haut-commissaire a annoncé un couvre-feu et un certain nombre de mesures. Parmi ces mesures, il y a la participation des armées, que je salue évidemment, à la sécurisation d'un certain nombre d'infrastructures, notamment les ports et aéroports, pour permettre un déploiement des forces de sécurité intérieures sur la sécurisation d'autres sites et la protection des habitants. Il y a la mise en œuvre et le déclenchement de l'état d'urgence. Nous avons, au Conseil des ministres, adopté les décrets qui permettent le déclenchement de l'état d'urgence. Il permet un certain nombre de mesures à la main du haut-commissaire et de ses équipes. Je pense aux perquisitions administratives, je pense aux assignations à résidence, je pense aux interdictions de manifestations, notamment à l'obligation du dépôt des armes.
Alors, on va revenir sur ces mesures en détail qui ont été annoncées sur le déploiement de l'armée. Mais d'abord, Christophe, sur cette mesure qui est inédite. C'est la première fois que le gouvernement français prend une telle décision, l'interdiction de TikTok. Pourquoi ? Quel rôle le réseau social a-t-il pu jouer dans ces émeutes ?
Un double rôle, un rôle de coordination des émeutiers. Comme on l'a vu en juin 2023, les informations, les vidéos passent plus rapidement. Et puis TikTok, c'est la Chine. Oui, et derrière ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, on soupçonne la Chine. La Chine, depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses années, lorgne sur la Nouvelle-Calédonie, notamment sur le nickel, mais pas seulement. Elle a organisé toute une politique d'envoi de touristes, par exemple. Je voudrais vous citer simplement un propos tenu par Rocco Amitane il y a quelques années, en 2021. Rocco Amitane, c'est le successeur de Jean-Marie Tjibaou, donc c'est un chef indépendantiste. « Nous n'avons pas peur de la Chine, c'est la France, pas elle, qui nous a colonisés. » Nous ne tournons pas que vers l'Europe, elle est loin d'ici. On ne va pas faire comme si la Chine n'existait pas. Donc le lien entre la revendication d'indépendantisme et se tourner vers la Chine, c'est quelque chose qui politiquement a un sens en Nouvelle-Calédonie. Les Chinois ont étendu leur emprise sur toute la zone. Une crise politique Fidji est exclue du Commonwealth. Les Chinois viennent et financent tout. Un problème d'infrastructure et de base aérienne au Samoa, des vieilles infrastructures américaines de la Seconde Guerre mondiale, les Chinois arrivent et payent tout. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Chinois. Dans les îles Salomon-Déchirées, les Chinois qui viennent. En 1985, la France disait « si la Calédonie devenait indépendante, si la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante, elle tomberait sous l'emprise des Australiens. » Aujourd'hui, c'est sous la coupe des Chinois. C'est donc un moment géopolitique qui se gère. Je vais même plus loin, je me demande jusqu'où la crise du nickel, 45% de chute des cours du nickel l'année dernière, n'est pas due aussi à une action chinoise qui, d'un côté, flatte la production indonésienne à bas coût, donc les cours sont tirés vers le bas, et de l'autre, puisque la Chine consomme beaucoup de nickel pour fabriquer des batteries électriques, eh bien la Chine fait pression aussi sur les prix et refuse de s'alimenter beaucoup en Nouvelle-Calédonie pour tirer vers le bas le nickel calédonien. On est là peut-être un petit peu de ma part dans la paranoïa, mais je pense qu'il y a une action politique globale de la Chine pour que la Nouvelle-Calédonie complète cette barrière chinoise dans le Pacifique.
Est-ce qu'on peut mesurer le niveau d'influence de la Chine dans ces émeutes ? C'est difficile de mesurer.
Ce qui est compliqué dans ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a 3 niveaux de conflit. Il y a le conflit politique à partir de ce nouveau mode de scrutin qui consiste à remettre quand même un peu de démocratie dans ce qui va être fait.
À élargir le corps électoral,
parce qu'il y a des mesures qui sont quand même antidémocratiques, qui va tendre à exclure un certain nombre de personnes. Tout ça a été fait quand, évidemment, on excluait que 7% des électeurs, quand la mesure a été faite, maintenant, elle en exclut 20%, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. C'est le premier niveau. Et là, on voit un peu que les responsables indépendantistes, aussi bien le président du gouvernement, Louis Mapou, que le président du Sénat coutumier, ont joué un peu avec le feu. Il y a ce deuxième niveau, un niveau d'émeute, avec des jeunes dont je suis sûr, quand on voit qu'il y a des gamins de 12, 14, 16 ans, que l'histoire du mode de scrutin, on l'a vu dans dans des émeutes ici en métropole ne
joue
pas.
Parce que derrière, il y a une question identitaire.
Il y a des questions identitaires, il y a des réseaux, il y a la soif de consommer.
Il y a une peur canaque de perdre son poids.
Il y a un effet aussi d'imitation, de pillage, etc. Et puis, il y a effectivement, comme le dit Christophe, un enjeu géopolitique majeur. Effectivement, on voit bien qu'une grande usine de traitement du minerai a été faite dans la province Nord et que cette usine, qui est détenue à 51% par le pouvoir indépendantiste, est détenue à 49% par un complexe anglo-suisse et que, effectivement, étant donné le niveau d'endettement absolument faramineux, 13,5 milliards d'euros d'endettement de cette usine, de ce site industriel qui draine 3700 emplois sur une population de 50 000 habitants. C'est colossal, c'est évidemment un employeur majeur. On voit bien que la Chine est là en train de se dire on pourrait racheter cela, cette part de 49%. Mais il n'y a pas que la Chine. Christophe a parlé de l'Australie il y a 30 ans, et maintenant il y a l'Azerbaïdjan aussi qui est dans la boucle, et qui d'ailleurs ne se cache absolument pas des menées, un peu d'ailleurs sur le mode de la vengeance par rapport au soutien de la France à l'Arménie. Enfin, il y a des jeux extrêmement complexes, et c'est sans doute que les recettes qui ont marché au moment des accords de Nouméa, il est très possible, aux accords de Matignon, enfin plus exactement, pardon, il est très possible que ces méthodes ne marcheront plus dans les circonstances actuelles.
Sonia Baquès, bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Je le disais, vous êtes présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie. On va revenir dans un instant sur les annonces qui ont été faites par Gabriel Attal. Mais d'abord, il est 7h49, si je ne me trompe pas, chez vous. Comment s'est déroulée la nuit ?
La nuit a été un peu plus calme que les deux nuits précédentes. D'une part parce que l'état d'urgence a permis de mobiliser un certain nombre de moyens complémentaires qui n'étaient pas mobilisables jusqu'à présent. De voir arriver quelques moyens de l'armée, ça a calmé un certain nombre de belligérants. D'autre part parce qu'il y a eu un communiqué commun des indépendantistes et des non-indépendantistes hier qui a calmé quelques poches d'émeutes. Ça tire encore dans certains endroits de la ville, ça tire dans le Grand Nouméa. Beaucoup de maisons ont été brûlées cette nuit, de commerces également, et donc la situation n'est pas apaisée. Il y a un gendarme qui est mort cette nuit. Les barrages sont parfois piégés avec des explosifs pour attaquer les forces de l'ordre. Donc la situation, elle est plus calme que les nuits précédentes, mais on est encore dans une situation très insurrectionnelle.
Vous aviez demandé l'état d'urgence, vous aviez demandé le déploiement de l'armée. Est-ce que vous avez constaté ce matin déjà le déploiement des militaires aux alentours des ports et de l'aéroport ? C'est déjà mis en œuvre ?
Oui, cette nuit déjà, en fait, on les a vus. En fait, il y a aussi un impact psychologique sur la présence de tous les moyens militaires. C'est-à-dire que l'état d'urgence a eu évidemment un impact en termes de moyens, mais il a aussi eu un impact en termes de dissuasion. Ça a mis fin à un certain nombre de poches d'attaques, mais ça a continué quand même. Donc maintenant, il va falloir sans doute que les commanditaires soient trouvés et sanctionnés de manière à ce que tout ça s'arrête. La fin de TikTok, ça va aussi aider parce que en Nouvelle-Calédonie, c'était vraiment par TikTok qu'ils se donnaient les rendez-vous sur le terrain, qui savaient où se retrouver.
C'est-à-dire quels étaient les messages diffusés sur TikTok ?
En fait, c'est des lives sur TikTok. Bon, évidemment, tout ça est sur fond d'insultes racistes systématiques, mais sur TikTok, en fait, ils faisaient des lives pour se donner les lieux de rendez-vous suivants. Donc, en fait, ça leur permettait, rien qu'en suivant ce réseau social, de savoir où se retrouver. Donc, sans TikTok, ça désorganise un petit peu.
Donc, ça a contribué à embraser l'archipel, l'implication de ces messages.
Très clairement. De toute façon, l'ingérence étrangère est très présente en Nouvelle-Calédonie. On a un vrai problème avec la Chine. Je remercie Roselyne Bachelot d'avoir fait le point qu'elle a fait. On a une volonté de la Chine de rentrer. Moi, j'ai eu des tentatives de rachat l'achat d'un certain nombre d'outils de la province sud, d'outils économiques de la province sud par la Chine. Ils sont très, très présents sur le plan économique, mais on n'a plus, aujourd'hui, on n'a pas que la Chine. On a une présence très forte de l'Azerbaïdjan qui, sur les comptes Twitter officiels, fait aujourd'hui des posts pour traiter la police d'assassins, la police française. En Nouvelle-Calédonie, donc on a des élus indépendantistes qui ont été se former en Chine d'une part, en Azerbaïdjan d'autre part. On avait des banderoles pendant les manifestations avec écrit Poutine, tu es le bienvenu en Nouvelle-Calédonie. Donc on a très clairement, et c'est très nouveau par rapport aux événements des années 80, une influence étrangère forte.
Oui, qui est derrière, en partie, en tout cas, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Je vais revenir vers vous dans un instant, Sonia Backès, juste avant, Guillaume. Précisons quand même ce que ça implique, l'état d'urgence.
L'état d'urgence, c'est d'abord prévu par la loi. C'est la loi du 3 avril 1955. Et il y a toute une série de dispositions, d'exceptions. Ça donne des pouvoirs supplémentaires à l'administration. C'est une sorte de dopant sur un plan opérationnel. Donc, vous pouvez faire des choses que d'ordinaire, vous ne pouvez pas faire. Par exemple, perquisitionner le domicile de quelqu'un. Par exemple, assigner une personne à résidence. Par exemple, interrompre la circulation, instaurer un couvre-feu.
Fouiller les véhicules.
Les véhicules. Désarmer les personnes. Si vous êtes détenteur d'une arme de chasse et que vous avez un permis de chasser et que tout cela est parfaitement régulier, on peut vous prendre votre arme. Interdire des réunions, des manifestations. Oui. Dissoudre des associations. Bref, il y a toute une série de mesures qui sont des mesures opérationnelles utiles pour rétablir l'ordre. La loi du 3 avril 55, elle est prise dans un contexte insurrectionnel en Algérie par des personnes qui sont Edgar Faure et Pierre Manès France. Hein, donc, c'était pas non plus de dangereux fascistes, mais c'était nécessaire. Et donc là, ça donne des moyens opérationnels, des moyens juridiques. Ensuite, il faut des moyens opérationnels, oui. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'on a donné des pouvoirs supplémentaires à l'administration si sur place, elle n'a pas les...
Et d'où les renforts qui ont été envoyés, le déploiement de l'armée. On va y revenir dans un instant, avant on va retourner en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir Jean-Frédéric Blanchard, vous êtes chirurgien à Nouméa. Est-ce que comme Sonia Backès, vous avez constaté aussi que cette nuit a été un peu plus calme que les autres ?
Oui, effectivement, nous sommes isolés, et donc on a eu moins de tirs, on a entendu moins de tirs de flashball ou autres déflagrations qui nous empêchaient de dormir en fait. Mais la tension
elle reste très forte, et c'est ce que Sonia Backès nous disait également. Comment ces émeutes dans les hôpitaux, comment elles désorganisent la gestion et le soin des patients?
Par un afflux de patients supplémentaires, de grandes traumatologies, et d'autre part par une gêne à la circulation des véhicules de secours. Et à ma connaissance, il y a eu au moins une mort in utero de fœtus, car la mère n'a pas pu atteindre un établissement de soins.
Vous pouvez faire face à l'afflux des patients ?
Alors, je suis en libéral, donc je n'ai pas eu à faire face d'afflux de patients. J'étais de garde et j'aurais dû être réquisitionné, ça n'a pas été le cas, car je pense que l'hôpital a pu couvrir en fait sa mission. Si ce n'avait pas été le cas, il m'aurait réquisitionné.
Jean-Frédéric Blanchard, un dernier mot. Que pensez-vous des mesures qui ont été annoncées ce soir par Gabriel Attal, à la fois le déploiement de l'armée dans les ports, à l'aéroport, l'état d'urgence déclaré, l'interdiction de TikTok, toutes ces mesures-là, elles vont dans le bon sens? Est-ce que la population sur place attend?
Oui, bien sûr. Et je profite de passer sur une grande antenne pour remercier tout simplement l'Assemblée nationale, car nous avons eu... un doute où nous n'étions pas sûrs que la loi passerait, et le fait qu'elle soit passée, ça m'a fait pleurer de joie. Et donc nous ne sommes pas abandonnés, au contraire, on est aidés par les autorités, par le gouvernement. Et voilà, si je peux juste dire merci.
Merci Jean-Frédéric Blanchard, merci beaucoup pour votre témoignage. Et c'est vrai qu'on a entendu beaucoup d'inquiétudes ces derniers jours de la population sur place qui disait on se sent abandonné de la part de l'État. Charles.
Mais je pense que ce qui se passe est très important parce que c'est une révolte de peuples autochtones contre les Blancs, en quelque sorte. C'est ce qui est brandi dans beaucoup de slogans et chez beaucoup d'émeutiers. C'est soutenu par la Chine. On a des manifestations d'adhésion à Poutine. Poutine, tu es le bienvenu ici, etc. De rejet de la France et donc, en fait, de l'Occident. Et je constate, moi, que c'est... Et c'est aussi, instrumentalisé par la Chine, poussé par la Chine. Et donc, ça s'inscrit dans ce qui se passe énormément en ce moment. On n'arrête pas d'en parler, mais dans ce Sud global qui rejette de plus en plus et de plus en plus violemment l'Occident, c'est-à-dire que la France s'est faite sortir des endroits où elle avait de l'influence en Afrique, en Afrique de l'Ouest notamment, au Niger, dans d'autres endroits comme ça. Ce qui se passe à Gaza nourrit énormément les discours anti-occidentaux, Israël étant perçu comme le représentant et l'allié de l'Occident dans la région. Et là, on a un nouvel exemple de cette espèce de retournement, de rejet, où parce que c'est la France, parce que ce serait les Blancs, parce que c'est les Occidentaux, on les rejette encore. Et derrière, il y a l'influence souterraine, mais en fait voyante, de la Chine et peut-être de la Russie. Donc moi, je trouve que c'est pas du tout anodin, d'autant plus que c'est très stratégique pour la France d'avoir ces territoires à cet endroit-là, puisque on sait que c'est qu'il y a des nouveaux accords entre l'Australie et les États-Unis, etc. Donc pour la France elle-même, stricto sensu, c'est très stratégique d'être là-bas. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant et ça montre qu'en fait, peut-être que l'Occident doit maintenant ouvrir les yeux sur les influences très violentes qui se déchaînent contre lui et assumer le fait qu'il entend...
Là, il y a une prise de conscience, en tout cas, avec l'interdiction du réseau social TikTok.
Le plein contrôle des endroits où il a de l'influence.
Alors, la solution, il y a peut-être une porte de sortie possible, c'est la conclusion d'un accord global entre les deux parties prenantes locales. Gabriel Attal a invité les responsables politiques calédoniens à saisir cette main tendue, à venir discuter à Paris. Et s'il y avait un accord global, ça prendrait le pas sur le texte qui a été voté au Parlement. Dans ce contexte, avec ce qu'on expliquait, l'influence étrangère aussi, l'ombre de la Chine qui plane au-dessus de ces émeutes, dans ce contexte, est-ce qu'un accord est possible entre ces deux parties ?
Je pense que les différents partis politiques qui sont représentés dans les assemblées calédoniennes n'ont aucun intérêt à la violence, et l'ont compris. Y compris le FLNKS et toutes ses composantes. Les émeutiers sont hors de ce spectre, à mon avis, pour l'essentiel. Donc, ils ont intérêt à profiter de ces 40 jours de discussion pour trouver vite un accord politique global qui leur permette de penser le scénario des années à venir. En 85, quand Edgar Pisani va là-bas à la demande de François Mitterrand, lui-même ancien ministre de Gaulle, il sort la carte de l'indépendance association, qui n'a pas contribué forcément à apaiser les choses, parce que dans l'indépendance association, il y avait indépendance. Au moment des accords de Matignon, prolongés par les accords de 98, accords de Nouméa et de Lionel Jospin, on a pensé autre chose, c'est-à-dire une interdépendance, une forte autonomie pour les décisions néo-calédoniennes hors régalien, mais une forte association avec la France pour ne pas perdre ce rayonnement géopolitique. C'est sur cette base-là qu'il faut travailler. Il faut travailler dans cette base-là.
Moi, j'ai des doutes là-dessus. Christophe.
Oui, mais
c'est effectivement la seule voie de passage, mais c'est une voie extrêmement périlleuse. C'est une voie antidémocratique parce qu'elle consistera à redonner une influence numérique aux indépendantistes qu'ils n'ont pas dans la population.
Je veux leur redonner une influence politique pour déterminer le cadre stratégique pour l'île à venir, mais il faut sortir de cette idée qu'on va avoir des référendums réguliers pour savoir si on reste en France ou pas. Et si on veut réinscrire des référendums dans le calendrier, comme on en a eu en 2018, 2020, 2021... On élargit le corps électoral. Voilà. Parce qu'en effet, ce qui a été décidé en 2007, c'est exorbitant de toute tradition démocratique. D'ailleurs, si les électeurs calédoniens exclus faisaient une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, ils auraient toutes les chances de la gagner. Oui. Donc on ne peut pas continuer dans l'anticonstitutionnalité. Accord politique pour savoir quel est le destin de l'île. Et là, on peut trouver un accord. Mais tout le monde votera. Et on sait donc que ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie restera française.
On verra déjà si les parties prenantes acceptent de se rendre à Paris pour discuter de cet accord global.
Un accord qui ne serait pas à la place de la loi, mais pour donner un socle politique stratégique à cette loi qui doit passer en Congrès après la fin.
Je te trouve d'un optimisme délirant.
Bon. C'est mon défaut peut-être.